Jeune à tout prix, Morgane Berguin.
Bonjour à toutes et à tous. La dernière fois, je vous avais annoncé que l'on parlerait sans doute du décrochage scolaire. Eh bien, il n'en est rien, car nous avons dû changer de programme, mais pour un sujet tout aussi intéressant, bien que très différent, puisque nous allons aborder l'alimentation des jeunes. Les jeunes mangent-ils mal? Et puis d'abord, c'est quoi bien manger? Pour en parler, Sandra Desmartin, nutritionniste diététicienne, je vais y arriver, Marie Sandoz, chargée de mission jeunesse à l'Union régionale pour l'habitat des jeunes Auvergne-Rhône-Alpes, et par téléphone, Catherine Grangeard, psychanalyste et co-auteure avec Daphné Le Portois du roman La femme qui voit de l'autre côté du miroir aux éditions des Rolles. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Maglone est de retour. Elle a quelque chose à dire sur l'alimentation des étudiants. Vous l'entendrez tout à l'heure. Comme d'habitude, nous sommes allés interroger des jeunes dans la rue et voici leur réponse.
Manger, c'est un plaisir. C'est une obligation.
Si on mange pas, on peut pas vivre. Enfin, on peut rien faire quoi, sans manger.
La santé, c'est bien, mais quand on se fait plaisir aussi, c'est bien.
Se nourrir, c'est apporter ce qu'on a besoin à notre corps, et manger, ça peut être des gourmandises.
Se nourrir, c'est c'est différent. Parce que se nourrir, c'est tu te nourris, c'est matin, midi, soir. Et manger, je mange quand j'en ai envie.
Oui, je mange un peu comme quand j'en ai envie, quoi. Quand...
Les filles font plus attention.
Pourquoi?
Parce qu'elles font plus attention à leur corps. Pour avoir un joli corps comparé aux hommes.
Par rapport au corps, pour le régime et tout.
Mais non, parce que on est tous gourmands, quoi. Donc, je trouve pas qu'il y ait une différence.
Fast food, c'est bien de temps en temps. Après, ça fait grossir un petit peu, donc.
C'est cool entre potes, mais pas trop souvent quand même. C'est agréable, on s'en moque un peu de ce qu'on mange, c'est juste pour être ensemble.
C'est pas pareil que celle que nos parents font, quoi. C'est pas la même chose, quoi. Ça a pas le même goût, c'est pas pareil, quoi. C'est pas fait pareil. Yeah. Manger 5 fruits et légumes par jour, je les mange pas.
C'est important, c'est pour soi, quoi. C'est pas les autres qui vont le faire à notre place.
Jeune à tout prix.
Catherine Grangeard, qu'en avez-vous pensé de ce qu'ils disent ces jeunes?
Écoutez, je vais vous dire les notions les plus importantes dans ce que j'ai entendu et qu'on retrouve chez les jeunes. À la fois le plaisir de manger, et ça c'est essentiel. Donc quand on fait des recommandations, attention de ne pas oublier le mot plaisir, parce que si on est simplement sur « faut faire attention, votre corps a besoin d'eux », ça ne marchera jamais. Et les filles insistent un maximum sur le joli corps. Les filles, elles doivent avoir un joli corps. Donc ça vraiment, ça interroge cette injonction qu'elles ont complètement intégrée, qu'elles devaient avoir un joli corps. Et donc, du coup, un comportement qui va avoir très avec cet aspect, est-ce que j'ai envie d'avoir un joli corps? Parce qu'il y a des filles pour qui c'est compliqué d'avoir un joli corps, pour qui le regard de l'autre va poser problème, parce qu'elles ont eu dans leurs histoires des choses compliquées. Et c'est vraiment sur ce point, chacun dans le micro-trottoir a un avis sur la question posée, mais dans la vie, chacun a un rapport à son corps, à l'alimentation, différent en fonction de son histoire. Et c'est en fonction de son histoire qu'on doit donner des conseils, et pas généralement 5 fruits, 5 légumes. Voilà.
Il y a une jeune fille, alors je leur avais demandé s'ils pensaient qu'il y avait une différence entre se nourrir et manger. Et il y a notamment alors deux jeunes filles. Une jeune fille qui dit manger c'est matin, midi, soir. Se nourrir c'est matin, midi, soir. Et manger c'est quand on en a envie. Et une autre qui dit se nourrir c'est l'alimentation de tous les jours. Et manger c'est les sucreries. Du coup, est-ce qu'elles ont raison? Et c'est quoi la différence entre manger et se nourrir?
Pour certains c'est pareil. Pour d'autres, c'est différent. Et justement, lorsque c'est pareil, eh bien, on va se nourrir avec des éléments qui sont nécessaires et qui, en même temps, font plaisir. Et certains vont manger 3 fois par jour, d'autres 5 fois par jour. J'ai envie de dire un peu qu'importe. En revanche, quand on mange sans se rendre compte qu'on est en train de se nourrir, eh bien, on peut effectivement se donner à son propre corps et donc à sa santé des éléments qui sont très très mauvais, tout ce qui pourra être inutiles en termes de santé, mais qui en revanche peuvent être super bons au niveau des papilles. Et voilà un peu le drame lorsqu'il y a une dissociation entre ces deux éléments. Et nous, en tant que professionnels, que ce soit les nutritionnistes ou les psys, on va essayer de faire comprendre que ce qu'on se donne à manger, c'est important pour soi-même. Si on veut être en pleine santé, c'est pas possible de se donner n'importe quoi parce que ça aura des incidences sur notre existence et pas simplement sur notre physique. Et voilà, donc ça c'est vraiment important. Mais encore une fois, il y a des personnes qui ont des connexions comme cela avec elles-mêmes et d'autres pas. Et ça, en fonction de chaque individu, chaque jeune, puisque aujourd'hui on parle des jeunes, eh bien c'est essentiel de voir où les gens en sont. Et ce qui est étonnant aussi dans ce micro-trottoir, c'est que personne n'a dit « Ah, moi j'ai peur de devenir gros », comme si le mot était à bannir. Or, effectivement, nommer les choses, c'est pouvoir les combattre. C'est pour ça que l'introduction de la grossophobie dans le dictionnaire là, récemment est essentielle, parce qu'on ne peut pas lutter contre quelque chose si on ne l'a pas repéré. Et dans ce micro-trottoir, ce mot, est il n'y est pas, comme s'il était tabou. Donc moi, ça m'a vraiment interpellée.
Sandra Desmartins, sur la différence entre manger et se nourrir.
Alors, en fait, dans la notion de manger, ils l'ont très bien dit, il y a la notion de se nourrir. Se nourrir, c'est un besoin physique, physiologique. Un bébé mange parce qu'il a faim. Donc, cette dimension-là existe, mais à l'heure actuelle, il n'y a pas que cette dimension-là. Il y a la dimension, effectivement, de plaisir qui est super importante. On est censé manger des aliments par plaisir. Certains, malheureusement, le perdent avec plein de conséquences et plein de soucis. Mais on ne parle pas de régime déjà. Hein. Normalement, le mot régime devrait être banni du vocabulaire. Je le dis à tous mes patients assez régulièrement, qu'ils soient jeunes ou anciens. C'est apprendre à se nourrir correctement, exactement comme vous disiez tout à l'heure. Donc avec, et forcément, il y a la notion vitaminique, la notion minérale, la notion de 5 fruits et légumes, etc. Ça, ils le savent par cœur. Mais ils ont oublié la notion des incitations, par exemple la publicité qui les incite à manger en dehors des repas, à n'importe quelle heure, etc. La notion de gourmandise, la notion culturelle. On mange aussi parce que notre maman, notre papa nous a appris à manger de telle manière, de tel plat, de telle recette, à tel moment, à tel horaire. Voilà, cette notion-là est quand même importante dans la notion de manger. C'est quand même, c'est pareil, quelqu'un qui a une culture, les Anglais, par exemple, je dis toujours l'exemple des Anglais ou des Allemands, ont quand même une culture différente. Ils mangent pas pareil le matin, pas pareil à midi, pas pareil le soir. Donc, notre pop culture incite sur le choix de ce qu'on a comme aliment. Donc ça, c'est une notion aussi à prendre en compte. Il y a aussi la notion des émotions. On mange aussi parce que on s'ennuie, on mange parce que on a une petite déception amoureuse, on mange pour plein de raisons. Effectivement, on peut manger par rapport à sa silhouette, la notion de gros, de maigre, etc. Il y a plein de raisons en fait qui donnent cette notion de manger. C'est pas que se nourrir.
Vous avez parlé du régime, plutôt qu'il faut pas utiliser ce mot. Du coup, il faudrait plus utiliser rééquilibrage alimentaire.
C'est ça.
Mais du coup, c'est quoi la différence entre un rééquilibrage alimentaire et un régime ?
Ah, c'est toute une différence. Régime, ça sous-entend la notion de restriction. Ça veut dire, je vais être frustré, je vais avoir rien à manger. Alors que un rééquilibrage alimentaire, c'est de se dire, je mange pas correctement et je corrige mes habitudes alimentaires. Je corrige telle petite bêtise qu'on se rend même pas compte parce que ça devient un réflexe, ça devient naturel. Et quand je fais l'enquête avec mes patients, je leur dis, vous voyez, dans ce que vous m'avez dit, vous en êtes pas rendu compte, mais vous avez oublié de mentionner les fruits. Et ils se rendent compte, d'eux-mêmes, ils oublient de manger des fruits, ils oublient de boire suffisamment d'eau dans la journée, de l'hydratation. L'hydratation est quelque chose de super important. Et à l'heure actuelle, il y a, j'allais dire, à peu près 50% des personnes qui ne boivent pas assez, par exemple. Il y a plein de notions qu'ils ont tendance à oublier. Et notre rôle de diététicien nutritionniste, c'est de leur appeler, leur dire, peut-être que si vous faites ci, si vous faites comme ça et tout ça, ça suffit à perdre du poids ou à prendre du poids si on veut en prendre, en fonction de pourquoi ils viennent me voir, en fait.
Catherine Grangeard, comment on explique que c'est vers l'adolescence que les jeunes commencent à avoir des tentatives mal contrôlées de régime alimentaire ?
Oui, parfois c'est plus jeune. Hein. Il y a des enquêtes qui montrent que déjà dans les cours d'école primaire, les jeunes filles trouvent qu'elles sont trop grosses. Alors que au niveau de l'IMC, au niveau de la médecine, c'est pas du tout vrai, mais c'est par rapport aux modèles. Les modèles qui sont diffusés par les médias. Là, vous voyez, c'est les journées de l'obésité, c'est dans le mois des régimes et dans la saison de la minceur, comme si pour aller à la plage, il fallait se préparer, sinon, honte sur moi. Et ça, les enfants l'intègrent très vite. Dans les cours de récré, vous les entendez, essayez d'écouter, se traiter de grosses vaches, de baleines, de mammouths, enfin. Donc, les ados vont avoir le corps qui tout naturellement change. Les filles ont les hanches qui s'élargissent, la poitrine, un peu de gras qui arrive. Et c'est là où ce qui est naturel au niveau social n'est pas accepté. Donc du coup, conclusion, c'est très clair, les TCA commencent là, les troubles du comportement alimentaire commencent là, où il y a des restrictions cognitives, on fait exprès de moins se nourrir, parce qu'il ne faut pas grossir. Alors que la puberté, c'est-à-dire l'adolescence, donc, la puberté fait que le corps change et les filles, naturellement, ont des hanches qui s'élargissent et elles s'arrondissent. Donc voilà le drame, si vous voulez, ce sont les injonctions sociales qui sont tellement intégrées que tout naturellement, les filles de votre micro-trottoir disaient, il faut avoir un joli corps. Et joli corps, ça ne veut pas dire gros, hein. Ça veut dire, vous voyez bien ce qu'on voit dans les magazines, des mannequins déchargés qui ont été utilisés par des couturiers pour mettre en valeur des vêtements et non pas la femme. Donc là, on a un problème. Au niveau des garçons, eh bien, il y a pareil un modèle social d'un mec très musclé, bien comme il faut, vous voyez bien dans les pubs et tout ça. Et donc, les garçons qui, eux aussi, sont plus ou moins mal à l'aise à l'adolescence parce que la question de la sexualité se pointe, eh bien, vont parfois trouver dans la nourriture des satisfactions assez faciles et donc vont pouvoir compenser la difficulté de la relation à l'autre avec une satisfaction avec la nourriture. Et évidemment, il y a aussi du social qui intervient. Vous savez très bien que dans les cours de récré, il y a une pornographie qui se diffuse sur les téléphones. Et donc, du coup, c'est tellement compliqué, encore beaucoup plus qu'aux générations précédentes, le rapport à l'autre. Et bien, la nourriture qui est là partout, disponible, avec une société et ses injonctions paradoxales de toujours consommer, puisque la publicité vous rappelle que tel truc, c'est pas cher et bon. Et évidemment, si vous le consommez, vous appartiendrez à la bande de copains. Vous voyez, il y a des contradictions, parce qu'en même temps, il faut avoir des corps qui impliquent, au contraire, de se restreindre. Donc là, il y a un truc qui va pas du tout. Et voilà pourquoi les ados, qui sont les cibles de la publicité, sont tiraillés entre différents idéaux et ça pose vraiment problème. Et évidemment, il y a un mouvement d'indépendance par rapport à la famille où il y avait des plats cuisinés, comme disait un des gars dans le micro-trottoir. Et la famille, on a envie à l'adolescence de s'en extraire, la bande de copains, on va au fast-food, on ne va plus à la cantine, etc., etc. Donc tout ceci cumulé, vous voyez, c'est toujours plurifactoriel, tout ceci cumulé fait que les injonctions par ailleurs du PNNS, les gens ne les écoutent pas, c'est pas qu'ils les connaissent pas. Encore dans le micro-trottoir, quelqu'un dit les cinq fruits et légumes, je les consomme pas, c'est-à-dire qu'il le sait, mais il ne le fait pas, non pas parce qu'il y a réfléchi, parce que il est comme ça dans un mouvement de bon, je sais, mais quand même, je fais ce que je veux.
Une dernière question à Sandra Desmartins et après on fera une pause et on viendra sur Habitat Jeune. Vous êtes nutritionniste diététicienne, c'est quoi la différence entre nutritionniste et diététicien? Et est-ce qu'on peut être nutritionniste sans être diététicien et inversement?
Ouais. On peut être diététicien, tous les diététiciens déjà sont nutritionnistes. Par contre, on peut être nutritionniste sans être diététicien. Pour vous donner la différence, un nutritionniste, c'est quelqu'un qui a une formation au minimum de 3 jours pour avoir ce titre de nutritionniste, de 3 jours en nutrition. Donc quelqu'un qui fait une formation de 3 jours a le droit à ce titre nutritionniste, mais pas diététicien. Pour être diététicien, on a deux branches à l'heure actuelle. On a la branche BTS qui peut amener, donc le BTS diététique qui amène au métier diététicien, ou la branche DUT diététique, c'est toujours 2 ans à post-bac, qui amène aussi au titre de diététicien. Donc on a deux possibilités d'arriver à ce même métier. Donc nous, on se bat pour faire changer les choses. À l'heure actuelle, c'est pas le cas. Alors que nutritionniste, ça peut être très bien un médecin qui est nutritionniste que, comme je vous disais, quelqu'un qui a fait une formation de 3 jours en nutrition. Donc le titre de nutritionniste n'est pas protégé. Par contre, diététicien, il faut avoir ce diplôme pour pouvoir exercer.
Mais du coup, c'est quoi la différence entre la nutrition et la diététique?
Ça c'est plus compliqué. En fait, la diététique, ça sous-entend les produits minceurs, ça sous-entend plein de choses. Diététique veut tout et rien dire. La nutrition, c'est la nourriture du corps. C'est comment le corps fonctionne et comment, qu'est-ce qu'il a besoin. Voilà, l'étude de la nutrition, on fait beaucoup de nutrition dans nos études de diététique. On apprend la nutrition du sportif, la nutrition de la femme enceinte, la nutrition des enfants, des jeunes, etc. En fait, on apprend par âge quel est le besoin de vitamines, minérales, caloriques, je vous passe les détails, protéines, lipides, glucides, tout ça. C'est ça la nutrition. La diététique, c'est plus vaste en fait. C'est un produit diététique, c'est un produit, un complément alimentaire va s'appeler produit diététique. Il n'y a pas vraiment de spécifique. C'est pas un produit nutritionnel, c'est un produit diététique. C'est plus... je ne vais pas dire bio parce que c'est encore un terme encore plus, mais souvent c'est à l'image minceur, c'est à l'image... Alors que la diététique, c'est très vaste en fait. C'est difficile de le nommer. C'est plus facile de parler de nutrition que de diététique.
Merci à toutes les trois. On va faire une première pause musicale et on reviendra après sur Habit à Jeûne parce que vous n'avez pas encore parlé.
Courage, je t'écris. Ça fait longtemps que ta petite gueule m'a laissé un peu seul, tu me manques ces temps-ci. Courage, tu te souviens quand t'étais mon armure, les vertes et les pas mûres qu'on a faites, tu te souviens. Courage, je te veux dans ma poche pour les jours où je me sens moche et petit. Vois comme je dandine, j'ai le regard qui se débite. Souvent, pas comme avant. Courage à pas de loup, t'es sorti de la danse et ma pioche la sous l'eau. À ma porte, la prudence. Je marche sur les œufs que j'ai pondus le jour même. Trop poli, trop taiseux pour demander qu'on m'aime. Courage, je te veux comme reflet pour les jours où je me sens laid et petit. Vois comme je m'agite, je prends l'eau par allergie dans un coup de vent, plus comme avant.
Venez d'écouter Courage de Renan Luce sur Radio DC 106.6. Nous sommes dans les locaux de Mediapop avec Sandra Desmartins, nutritionniste diététicienne, Marie Sandoz, chargée de mission jeunesse à l'Union régionale pour l'habitat des jeunes Auvergne-Rhône-Alpes, et par téléphone Catherine Grangeard, psychanalyste. Alors Marie Sandoz, qu'est-ce que Habitat Jeune?
Alors Habitat Jeune, donc moi je suis chargée de mission à l'URAGE, l'Union régionale, mais Habitat Jeune c'est 70 résidences et services Habitat Jeune en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est un réseau national, hein, bien sûr. Ces résidences, elles accueillent des jeunes de 16 à 30 ans. Ça va de étudiants, apprentis, jeunes en recherche d'emploi, jeunes travailleurs. Voilà, c'est anciennement les foyers de jeunes travailleurs, les résidences Habitat Jeune.
Quelles sont les choses que vous mettez en place pour l'alimentation ?
Eh bien, alors en fait, donc Habitat Jeune, c'est à la fois, ça vous offre un logement, mais pas que. Il y a tout un accompagnement éducatif derrière. plus ou moins poussée selon les jeunes, hein, et il y a une vie collective au foyer parce qu'on redécouvre le plaisir aussi d'être ensemble, de vivre ensemble, voilà, et notamment sur la question de l'alimentation, on met en place des ateliers de cuisine qui sont avec en général une dizaine de jeunes, voilà, alors avec une fréquence de une fois par semaine ou moins. À la base, en fait, dans les foyers, il y avait des cafétérias et qui, petit à petit, ont fermé pour problèmes économiques. Mais du coup, comme on est un peu sur le projet des résidences habitat jeunes, c'est amener les jeunes vers l'autonomie. Finalement, les ateliers cuisine répondent parfaitement à cette dimension, puisque les jeunes se retrouvent ensemble, redécouvrent le plaisir de cuisiner ensemble. Donc, on va faire les courses ensemble. On prépare le repas ensemble. Souvent, c'est eux qui choisissent ce qu'ils ont envie de faire. Il y a certaines résidences, en fait, qui ont des paniers d'AMAP, qui ont des partenariats avec des agriculteurs locaux. Donc, en fait, il y a quelques années, on travaillait beaucoup la question de la bien manger, équilibré, avec la notion de manger 5 fruits et légumes, comme on parlait tout à l'heure. Et là, on continue à les inciter à bien manger, mais en plus, on leur apprend la saisonnalité des produits, à favoriser les circuits courts et à s'approvisionner local et de saison, donc. Et donc, souvent, certaines résidences ont des paniers avec des produits et ensemble, avec les résidents, ils font un menu. Ils préparent le menu, ils imaginent des fois des recettes qui ne sont pas existantes. Et puis, on prépare la table, on mange ensemble. Donc, il y a le côté convivial et aussi, il y a le côté de lien social et de convivialité qui est très important dans les résidences et qui permet aussi aux jeunes de ne pas être isolés, parce qu'on s'est aperçu quand même que souvent, il y a certains résidents qui se retrouvent tout seuls pour manger vite fait. Donc, ils prennent des produits de quatrième ou cinquième gamme, ou alors ils vont chercher un kebab au kebab du coin, et puis ils mangent le kebab devant leur télé dans leur chambre. Donc c'est à la fois pour permettre le lien social au niveau de la résidence et à la fois pour redécouvrir le plaisir de manger, de prendre du temps ensemble pour déguster son repas.
Vous insistez beaucoup sur manger ensemble et le social, ce qui a aussi été mentionné par une jeune fille dans le micro-trottoir, parce que je lui avais posé une question sur les fast-food et elle me dit bon, ça fait grossir, donc pas trop quand même, mais en fait on y va pour être ensemble, parce que pour être entre amis, on s'en fiche de ce qu'on mange parce qu'on est ensemble. Du coup, c'est important cette question d'être ensemble quand on mange. Vous vous hochez la tête.
Oui. En fait, le lien social, c'est très important parce que effectivement, comme vous disiez, un jeune qui mange seul, il va moins avoir le plaisir de manger. Il va manger pour manger, pour se nourrir. On en vient à ce qu'on disait tout à l'heure. Alors que le fait d'être ensemble, c'est manger, c'est je discute, je prends le temps, je mange plus en 5 minutes, je mange en une demi-heure. C'est cette notion de social est super importante. C'est l'idée des repas de famille, des repas en société, c'est se faire plaisir. Manger, alors pas forcément sainement, ça dépend ce qu'ils ont préparé, mais se manger ce qu'on a préparé, ce qu'on a mis comme goût dedans, et ensemble, en discutant, en partageant, on dit, bah tiens, oui, c'est bien, il faudra la refaire, ou voilà, échanger, le lien social est super important, effectivement. On mange différemment en société qu'on mangerait tout seul devant sa télé.
Catherine Grangeard, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce côté social de l'alimentation ?
Oui, bien sûr, le partage, on partage pas que du pain. On partage également cette relation qui nourrit tant et tant les individus dont ils ont faim. Et c'est pour cela que se retrouver au fast-food, c'est vraiment dommage, parce qu'ils pourraient se réunir ailleurs où ils mangeraient des produits plus sains et de qualité différente, avec ce plaisir, puisque c'est ça que les gens cherchent, c'est cette réunion, cette communion. Donc, on ne peut qu'inviter des vocations d'ouvrir ce qui existait, hein, avant que les chaînes se développent et s'imposent partout sur les territoires, des lieux où on mange à des prix tout à fait corrects, des produits locaux sains et ouverts à tous ces jeunes, parce que il n'y a aucune raison de se réunir chez
1-1 qui se, s'installe partout parce que la nourriture n'est pas particulièrement bonne. Ce que les gens ils veulent, c'est se réunir, c'est papoter, c'est rigoler, c'est être tranquille, c'est tout ça, à des prix compétitifs. Donc voilà une conclusion de votre micro-trottoir, c'est ouvrons partout des lieux où les jeunes se retrouvent et ont ce plaisir de consommer quelque chose, et ça permettra de lutter contre la solitude qui tue encore plus que l'obésité et d'autres maladies. Et voilà, c'est vraiment essentiel. S'intéresser à la nutrition, c'est très important, mais il faut d'abord s'intéresser aux conditions de vie des gens, et de là il y a ensuite l'aspect nutrition, mais c'est pas à mon sens l'aspect nutrition qui va ameuter le foule. En revanche, comment on fait pour bien vivre ensemble? Oui, là c'est certain, et donc c'est très intéressant l'habitat social pour que dans ces lieux de socialisation, on parle nourriture, mais on parle parce qu'on est ensemble, du lien.
Marie Sandeau, c'est comme ça que fonctionnent vos ateliers? C'est d'abord, on leur dit, vous allez être ensemble et on va en profiter pour parler de nourriture?
Oui, parce que c'est les principes d'Habitat Jeune, c'est, voilà, c'est le vivre ensemble. Donc les personnes, quand elles viennent dans une résidence, elles savent qu'elles ont leur logement. Souvent, c'est des logements maintenant indépendants, mais il y a un espace de vie collectif. Alors, il n'y a pas que des ateliers cuisine, mais lors des ateliers cuisine, le principe, et c'est ce que les jeunes viennent rechercher hein, dans les ateliers cuisine, oui. C'est le fait de voir le voisin, d'être ensemble, d'être avec les copains du foyer, quoi, pour cuisiner ensemble et manger ensemble. Et
ce qu'il faudrait rajouter aussi, c'est que bien rappeler aux jeunes que le fait maison coûte moins cher que le plat oui. industriel.
Ça, ah oui.
Voilà, on achète sa farine, si on regarde le prix au total pour la recette, il est bien plus bas que le produit identique industriel. Donc, ils ont tout intérêt à préparer leur plat maison que pour des raisons budgétaires, que d'aller chercher le kebab du coin.
Voilà. Mais oui.
Tout à fait. Nous, dans les résidences, en fait, il y a quand même 60% de jeunes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc,
oui, voilà.
La question du budget, on la traite bien entendu. Et c'est un des éléments de ces ateliers de cuisine, c'est de leur montrer que c'est pas parce qu'on va se prendre des produits locaux qu'on va on va payer tout de suite beaucoup plus cher. Au contraire,
c'est ça.
En fait.
Mais justement, il y a peut-être un enjeu ici. On aura l'occasion d'y revenir après la chronique de Maglone parce qu'elle va en parler. Finalement, au niveau budgétaire, je vais arriver à formuler ma question un jour ou l'autre. Quand on prépare soi-même, au final, c'est moins cher, mais dans l'immédiateté, c'est quand même plus cher, parce qu'acheter de la farine, plus des œufs, plus du lait, plus de la crème pour faire sa quiche, plus, etc., ça coûte quand même plus cher à la fin que quand on achète une quiche toute prête. Et peut-être que les étudiants, justement, qui contrôlent leur budget, qui font parfois des courses à 5 euros... peut-être sont plus dans l'immédiateté du budget que de voir venir...
C'est là où le rôle d'intervenant est de leur préciser que, certes, le paquet de farine, on l'achète par un kilo, on peut pas acheter 50 grammes ou 100 grammes séparés, mais au final, une fois qu'ils ont le paquet de farine de 1 kilo à la maison, ils vont faire plusieurs recettes avec. Donc, au final, leur coût sera plus bas que le produit industriel. Et puis, sans parler de l'aspect conservateur, etc., un produit maison, mais pas de conservateur, un produit industriel, il y aura tel conservateur... Tel conservateur, tel gélifiant, tel... Alors que ça, ils ont tendance à l'oublier, alors que ça a quand même un impact sur leur santé future. Parce qu'on le sait à l'heure actuelle, quand même.
Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une deuxième pause, et ensuite, on reviendra avec la chronique de Maglone.
Ils pourront tout nous enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt, pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime, on s'en fout de leurs mots, de la bienséance. Viens, on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens, on s'aime et c'est tout, on fera attention dans une autre vie. Viens, on s'aime, on est fou, encore un jour. Une nuit.
pas belle. Priez pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens on s'aime, viens on s'aime. Allez viens on s'aime, on s'en fout de leurs mots, de la bienséance. Viens on s'aime, on s'en fout de leurs idées, de ce qu'ils pensent. Viens on s'aime et c'est tout, on fera attention dans une autre vie. Viens on s'aime, on est fou, encore un jour, encore une nuit.
Viens on s'aime de Slimane sur Radio DC. Nous parlons aujourd'hui dans Jeûne à tout prix de l'alimentation des jeunes avec Sandra Desmartin, nutritionniste diététicienne, Marie Sandoz, chargée de mission jeunesse à l'Union régionale pour l'habitat des jeunes Auvergne-Rhône-Alpes, et par téléphone Catherine Grangeard, psychanalyste. Et tout de suite, c'est la chronique de Maglone.
Bonjour le monde. C'est un sujet qui rassemble comme il divise désormais. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alimentation et de ce qui tourne autour de celle-ci. Mais tout d'abord, définissons donc ce terme grâce à la définition d'un dictionnaire bien connu qui est l'action de s'alimenter, c'est-à-dire le fait d'assimiler de la nourriture, mais l'on peut tout autant cacher derrière ce mot le commerce et l'industrie des denrées alimentaires ou encore le régime alimentaire tel que l'omnivorisme, le végétarisme, le flexitarisme, le végétalisme et autres déclinaisons. Voilà un terme flou mais qui fait beaucoup parler de lui étant donné sa grande importance dans la vie de tout être vivant et des différends que peuvent avoir certains individus pour cause de religion, d'idéologie ou tout simplement par sensibilité. En plus de cela, l'alimentation est un acteur phare dans certains troubles tels que l'anorexie, la boulimie ou même l'anorexie-boulimie. En fait, l'alimentation touche beaucoup de choses, tout le temps, tous les jours, c'est essentiel et elle a aussi un rôle social. Pour ma part, je m'intéresserai surtout à l'alimentation chez l'étudiant lorsque celui-ci quitte le domicile familial pour vivre sa vie comme presque bon lui semble. On a tous nos petites haines alimentaires. Par exemple, je déteste les pois chiches. Depuis que je vis seule, je n'ai plus à manger ces horribles petites boules beiges étouffantes. Mais bon, on apprend vite que si on veut manger correctement, on ne peut pas se contenter de pain et de pâtes à tartiner, de biscuits et de boissons sucrées. Non, le corps nous le fait vite payer. Surtout qu'avec ça, en s'habituant mal, on peut très facilement développer des troubles du comportement alimentaire. Et personne ne souhaite être malade si jeune, surtout que ce sont des maladies qui sont très destructrices et mesquines. Au début ça va, on se dit qu'on arrêtera demain de manger des bêtises et on se fera un vrai plat. Puis en fait non, on mange toujours les mêmes cochonneries ou on ne mange tout simplement pas. Puis on s'en veut, on se déteste et on culpabilise. Pour ce genre de cas où l'on tombe dans de mauvais travers, je ne saurais que vous conseiller d'aller vous faire aider. Il s'ajoute à cela, pour l'étudiant, un problème budgétaire. Si papa-maman ne donne pas beaucoup, oubliez les bons restos tous les deux jours, je vous assure que manger des pâtes pendant deux semaines par manque d'argent, ce n'est pas particulièrement épanouissant, gustativement parlant. Au niveau financier, il y a plusieurs écoles. Ceux qui veulent manger avec de très bons produits, mais cela a un coût, surtout en ville. Ceux qui ont vraiment la flemme de tout faire eux-mêmes, et là on tombe dans les préparations déjà toutes faites, souvent pleines de sel et de sucre, de mauvaise qualité, donc rien de bon pour nous. Mais bon, ça coûte pas si cher et c'est facile. Puis, les gens un peu comme moi, qui mixent un peu les deux pour que ça soit correct, à un prix correct. Je pense que sur mon moi, ce qui me coûte le plus cher, c'est bien la nourriture. Et c'est un problème étant donné que c'est un élément important dans la vie de tout un chacun. Mais je n'ai pas que ces dépenses dans le mois à faire. J'essaye au mieux de m'alimenter, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est un peu compliqué. Il est difficile de faire des écarts sans se trouver dans le rouge avec sa banque. Puis tout le monde ne mange pas pareil. Selon son régime alimentaire, il est plus ou moins facile de trouver des produits à coût correct pour s'alimenter. Il faut souvent chercher les petits commerces dans les petites rues perdues de nos villes et éviter les pièges marketing.
Jeune à tout prix.
Qu'est-ce que vous pensez de cette chronique ?
Donc, ça revient un peu sur ce qu'on disait par rapport au budget. Par contre, on pourrait rajouter que il y a des aliments certes qui coûtent cher, la viande, le fromage, les produits laitiers en général, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire quand on a un petit budget, notamment au niveau des fruits et légumes. L'image des 5 fruits et légumes, souvent les jeunes disent « Oh, mais ça coûte cher, j'ai pas les moyens ». Pas forcément. En fait, il faut qu'ils pensent à aller chercher tout simplement les boîtes de petits pois, les boîtes de curry couverts. Certes, c'est des produits en conserve, il y a du sel, etc. Mais ça reste des légumes. Donc, quand on n'a pas la possibilité, budgétairement parlant, d'aller chercher autre chose comme légumes en frais, il y a possibilité aussi d'avoir ces boîtes de conserve en dépannage aussi dans le placard en fin de mois. Ça coûte pas cher. Dans les autres choses que je dis souvent à mes patients, c'est d'aller faire un tour au marché. Dans les grandes surfaces, amusez-vous à regarder le prix au kilo des légumes et des fruits est tendance à être vers le haut, alors qu'au marché, vous les avez, surtout en période de saison, de pleine saison, on a effectivement le prix qui est bien moins cher au kilo. Donc amusez-vous à aller chercher au marché. Certes, il faut y aller, il faut se déplacer le mercredi, le samedi matin, en fonction de votre lieu de résidence. Mais financièrement parlant, on s'y retrouve. Quand on a acheté un produit bien moins cher et que finalement, en plus, il est frais, il est de saison et en plus, on se régale par rapport à un produit en conserve, gustativement parlant, le plaisir ne va pas être le même. Certes, la viande, ça peut être cher. Alors, si on n'a pas les moyens, une fois par semaine, deux fois par semaine, en fonction de son budget, on peut aussi partir sur la piste des protéines végétales. Donc, les protéines végétales, c'est tout ce qui est lentilles, tout ce qui est haricots blancs, haricots rouges, pois chiches. Alors, certes, la jeune fille disait qu'elle aimait pas les pois chiches. Il y a autre chose que les pois chiches. Donc, tout ce que je vous disais, lentilles, haricots rouges, etc., ça coûte pas cher, en fait. C'est des légumineuses qu'on a tendance à oublier. Les anciens utilisaient beaucoup dans les soupes, dans plein de choses. C'est des protéines végétales. Après, en parlant de protéines, il y a aussi le blanc d'œuf. Le blanc d'œuf est une protéine très, très intéressante, nutritionnellement parlant, est quasiment équivalente à notre besoin. Et les œufs ont un coût assez, assez bas aussi au niveau protéines. Donc ça peut aussi être quelque chose qui peut remplacer la viande, le poisson, si on financièrement en fin de mois, ça coince un peu.
Marie Santos, les jeunes que vous avez en atelier, comment vous les abordez par rapport au budget ?
Déjà, le fait, c'est vrai, de les orienter vers des produits de saison, c'est beaucoup moins cher. Hein. C'est sûr qu'une tomate en hiver, vous allez la payer cher, alors qu'un chou, c'est leur apprendre à manger des produits que parfois ils n'ont jamais vus, jamais cuisinés. Voilà.
Vive les légumes oubliés, tout à fait.
Et puis, on travaille beaucoup la question du gaspillage alimentaire, parce que parfois, il y a des ateliers fond de placard, ça s'appelle, selon la résidence, mais on prend avec ce qui nous reste et on essaye de faire un menu ou un plat ou avec tous nos restes. Voilà. Parce que souvent, on s'est rendu compte aussi que il nous reste un petit fond de ça, on ne va pas le cuisiner, on ne va pas le manger, on va le jeter. Au contraire, en fait, on travaille le côté de recuisiner les restes et ça fait faire des économies.
J'aurais voulu dire quelque chose.
Allez-y.
Au niveau des sentiments, je m'entends en écho, c'est un sentiment. Au niveau des sentiments, on n'est pas tous égaux. Et par exemple, je parle d'une certaine Lucie dans mon roman qui sort là début juin. Lucie, elle a honte quand elle va acheter certains produits parce que à la caisse, on la regarde de travers, ou chez le boulanger, si elle prend un croissant au beurre, parce que elle est en excès de poids. Eh bien, je crois que ça joue énormément. Pourquoi certaines personnes font leurs courses au supermarché ? C'est aussi parce que c'est très impersonnel. Alors que au magasin du coin, eh bien, on vous fait soit des commentaires, soit on vous regarde. Et ce regard peut en dire beaucoup. Donc, ce n'est pas tant rationnel, les comportements des gens, et ça saurait, hein, franchement, on a regardé les infos, les journaux, le 20h. Donc, non, c'est pas tant rationnel. Il y a besoin, en approche de chacun et de chacune, d'entendre le pourquoi. Parce qu'on peut mettre en avant des raisons financières. Mais on l'a dit, faire une soupe, ça coûte moins cher que d'acheter une brique.
J'irai pas jusqu'à faire son pain parce que ça prend du temps, mais faire sa soupe, faire sa salade, râper ses carottes, ça coûte moins cher, il n'y a pas d'additifs et tout ça comme vous avez dit. Qu'est-ce qui fait que les gens ont des comportements peu rationnels? Voilà, donc c'est ma petite minute d'autopromotion pour mon bouquin parce que c'est ça l'objectif, c'est de montrer et de faire identifier les gens à des personnages avec une histoire et voir pourquoi certains ont des comportements pas tellement rationnels avec l'alimentation. Je pense qu'au-delà du miroir, il y a vraiment l'essentiel, pour ma part.
Du coup, ça me fait penser à quelque chose qu'on a abordé tout à l'heure, qui était, parce que là, on est en train de parler des étudiants qui peuvent acheter eux-mêmes leur nourriture. Moi, je peux aller m'acheter, faire moi-même mes courses. Mais quand on est adolescent, on vit chez ses parents. Et donc, c'est pas nous qui faisons les courses. Et donc, nos parents vont aussi, depuis notre enfance, nous apprendre à manger des choses, acheter une quiche toute faite plutôt que de la faire, ce genre de choses-là. C'est toute une éducation. Est-ce qu'on peut s'en défaire? Comment on peut s'en défaire? Est-ce qu'il y a un enjeu pour les adolescents? Je pose toutes mes questions à la fois et puis ensuite on triera. Est-ce qu'il y a un enjeu pour les adolescents à montrer qu'aller conquérir de l'indépendance par la nourriture? Quelle est cette relation parent-enfant-nourriture?
Oui, bien sûr, il y a de nombreux enjeux. Il y a la fidélité familiale pour certaines personnes, ne pas trahir son groupe familial, c'est vraiment important parce qu'ils ont encore plus besoin de cette reconnaissance et de cet amour du groupe familial que d'autres choses. Pour d'autres, c'est l'inverse. C'est j'en ai marre de ces pois chiches qu'on m'a imposés toute ma jeunesse, toute mon enfance. Là, maintenant que j'ai enfin l'occasion, bah, je vais manger tout à fait autre chose. C'est très individuel, très, très, très individuel. Et à la table familiale, si vous avez eu l'habitude de quelque chose, vous aurez un rapport à ce quelque chose en fonction de votre rapport à votre famille. Si vous avez un rejet de votre famille, c'est pas du tout la même chose que si vous les adorez et que la séparation est difficile. Les adolescents qui mangent comme on les nourrit, puisque c'est pas eux qui font ni les courses ni la cuisine, peuvent suggérer certains produits. Bien dans certaines familles, on les écoute, voire même on leur obéit parce que c'était vu à la télé, alors donc on va leur acheter ceci, cela. Et dans d'autres familles, ils n'ont pas voix au chapitre, hein, c'est tu manges ce que je te donne et tais-toi. Donc il y a des familles et du coup il y a des attitudes possibles ou pas possibles. Et ça c'est vraiment important pour les conseils. On ne peut pas donner un type de conseil. Sinon, on fait quelque chose de général et ça passe au-dessus à 4000. C'est impossible. En revanche, s'intéresser, mais c'est quoi le type de relation dans votre famille? Est-ce que vous avez voix au chapitre ou pas? Oui, là, effectivement, on peut modifier des choses. Mais pas toujours. Lorsque les conseils viennent de l'extérieur, parfois, ils sont considérés comme de l'extérieur. Le médecin a dit, d'accord, mais nous, dans notre famille, c'est comme ça qu'on mange.
Sandra Desmartin.
Oui, alors en fait, votre notion de famille est très intéressante. Quand justement un enfant est en surpoids ou à l'inverse, en sous-poids, la difficulté va venir du fait que la famille prépare. Donc comment faire quand un enfant est à, entre guillemets à part, alors qu'il n'a pas à être à part, pour l'aider à, dans sa prise en charge, c'est toute la difficulté.
C'est cette idée que finalement la personne qui prépare à manger va devoir préparer quelque chose de particulier à une personne de la famille, donc qui ne va pas manger la même chose que les autres, donc par rapport au groupe.
C'est ce qu'ils pensent. Alors qu'en fait, il faut justement analyser, comme vous disiez, chaque famille est différente. Il faut analyser qu'est-ce qui ne va pas dans l'alimentation de l'enfant pour aiguiller éventuellement la maman à peut-être mettre un peu moins de beurre dans son plat ou le faire différemment. Et il faut que toute la famille l'aide dans ce processus et pas lui fasse son assiette à part, justement. Il a
oui,
pas...
parfois, il y a des familles, voilà. Il y a des familles de gros. Et dans ces familles, ce serait rééduquer tout le groupe familial.
C'est ça.
Or, il y a une sorte de résistance dans la famille à modifier. Il y a des familles où on cuisine à l'huile et ça baigne dans l'huile et vous aurez beaucoup de mal à faire autrement tant qu'il n'y a pas de demande. tant qu'il n'y a pas de demande. C'est-à-dire que si dans la famille, il y a des gens qui disent ben, « nous, on souffre de », là oui, ça va être possible. En revanche, si c'est juste le gamin qui consulte parce qu'à l'école, on lui a dit lors de la visite médicale « attention, trop gros, souligné en rouge », eh bien, dans ce cas-là, il va être pointé du doigt comme celui qui pose problème et ça va être presque pire que tout parce que la famille n'est pas encore prête à modifier quelque chose au niveau du comportement alimentaire.
Sandra Desmartins.
C'est vraiment pour ça que je dis que tout est toujours singulier.
Sandra Desmartins, en quelques mots, parce qu'après on fera une dernière pause, on parlera des TCA.
C'était juste pour préciser que c'était l'intérêt de notre travail de diététicien et de psychologue, parce que justement c'est là où il faut qu'on intervienne en partenariat pour arriver à faire changer les habitudes sur du long terme, parce que c'est souvent sur du long terme.
Je voulais juste dire aussi que c'est le travail aussi des travailleurs sociaux, par exemple dans un habitat comme les résidences habitat jeunes, c'est toute cette approche éducative qu'on déconstruit un peu les idées reçues des jeunes et on apprend aux jeunes à devenir autonomes sur la question de l'alimentation.
Une pause de 2 minutes et ensuite il nous restera quelques minutes pour parler des troubles du comportement alimentaire.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon,
c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon,
c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson,
c'est bon.
Répétons sur ces airs polissons, qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Je pourrais dire bien des choses sur son talent, il a la couleur des roses sans leur piquant. Et puis quand on a terminé les bons morceaux, reste de quoi faire des souliers et des pinceaux.
Et ça c'est beau.
Des bons dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon, c'est bon,
c'est bon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
Désormais, je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson. Répétons sur cet air polisson.
Qui c'est qui est
bon? Qui c'est qui est bon? C'est le cochon,
c'est bon.
En ces temps de régime allégé, la résistance passe par le gobage effréné, driette du manche. C'est une drogue, une friandise, à un tel point qu'on en planque dans les valises, comme Jean Gabin.
C'est bien.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon.
C'est bon, c'est bon, c'est bon.
C'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon, c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté et le saucisson. Répétons sur cet air polisson. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon, c'est bon. Le cochon est tellement sage qu'en son honneur, je vous délivre un message qui vient du cœur. Battons-nous pour les droits de l'homme avec raison, puisqu'on dit souvent que les hommes sont des cochons. 2, 3, 1, 2.
Tout est bon dans le cochon, du groin jusqu'au jambon. C'est bon,
c'est bon,
c'est bon, c'est bon.
La rate et les rognons, la queue en tire-bouchon.
C'est bon,
c'est bon.
Désormais je veux chanter le cochon, le pâté, le saucisson. Répétons sur cette terre pollution.
C'est bon, c'est bon, c'est bon,
c'est bon. Qui c'est qui est bon, c'est le cochon. C'est bon.
C'était Tout est bon dans le cochon de Juliette. Vous êtes sur Radio DC, nous parlons de l'alimentation des jeunes avec Marie Sandoz, chargée de mission jeunesse à l'Union régionale pour l'habitat des jeunes Auvergne-Rhône-Alpes, Sandra Desmartins, nutritionniste diététicienne, Catherine Grangeard, psychanalyste. Il nous reste vraiment une poignée de minutes pour aborder la question des troubles du comportement alimentaire. Marie Sandoz, est-ce que ça c'est quelque chose auquel vous êtes...
confronté et alerté
par rapport aux jeunes que vous encadrez?
Oui, donc c'est quelque chose qui est travaillé en général de façon individuelle aussi, dans l'accompagnement individuel avec le jeune ou la jeune. Et puis après, on essaye d'orienter la personne vers des professionnels plus compétents. Et puis, c'est inciter aussi à ces jeunes-là à venir manger parce qu'il y a aussi une question d'être isolé par rapport à ça.
Et c'est fréquent? C'est des cas que finalement pas tant que ça?
Je dirais 5% sur la moyenne de jeunes nationales qui souffrent de troubles du comportement alimentaire.
Peut-être qu'on peut revenir sur qu'est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire?
Un trouble du comportement, c'est justement un comportement qui s'est modifié au fil des années. Le trouble du comportement, en fait, c'est pas forcément lié à l'alimentation. On dit le trouble du comportement alimentaire, certes, ça touche l'alimentation, mais c'est avant tout un problème psychologique. Souvent, c'est quelque chose qu'il faut détecter, qui s'est passé, qui a malheureusement engendré le trouble du comportement alimentaire. Alors souvent, on m'envoie des anorexies, des boulimies, des choses comme ça. Les médecins nous orientent vers la diététique. Mais souvent, je demande s'ils ont une prise en charge psychologique aussi, parce que malheureusement, ça touche l'alimentation. Certes, ils savent tout ça, ils savent ce qu'ils doivent faire, mais leur comportement, ils n'y arrivent pas. Donc l'aspect psychologique est, j'allais dire, à 90% importante. La diététique passe dans les 10% qui restent, quoi.
Catherine Grangeard.
Absolument.
Voilà.
C'est le dessus de l'iceberg.
C'est ça.
Et donc, ce qui se voit, c'est l'appel. Mais ce qui compte, c'est ce qui est dessous. Non, je suis tout à fait d'accord avec Sandra. C'est une évidence que ce n'est pas par ce qui se voit qu'il faut prendre la question. C'est un appel. Et donc, si on n'arrive pas à manger dans l'anorexie, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce refus complet? La personne ne veut pas manger. C'est pas ça la question, c'est qu'elle n'y arrive pas. Et donc, nous travaillons sur ce qu'il y a dessous. Et idem dans l'obésité, etc. Et c'est pour ça que parfois c'est très agaçant de parler alimentation, nutrition, uniquement en parlant assiette, basket. Or, ce qui compte, c'est la personne, le pourquoi elle est dans cette situation.
Comment on peut repérer des TCA quand on est dans l'entourage d'une personne qui a un trouble du comportement alimentaire, ou quand on est soi-même victime de troubles du comportement alimentaire, qu'on sait qu'il y a peut-être quelque chose de bizarre dans notre rapport à la nourriture, mais qu'on n'a pas mis un mot dessus?
Ce repérage, il est simple. Lorsque vous assistez à des repas extrêmement compliqués, une personne qui chipote, eh bien, qui est très maigre, voilà, il y a de l'anorexie mentale, hein, puisqu'on parle toujours d'anorexie. Or, la définition, c'est anorexie mentale. La boulimie, la personne, vous n'allez pas la repérer parce qu'elle se cache chez elle pour dévorer, le stock grossit, ou alors elle vomit et ça ne se voit pas. Donc là, c'est tout à fait autre chose. C'est vous-même, vous êtes confronté à des envies irrépressibles. Vous n'êtes pas forcément en boulimie, mais déjà, alertez-vous un peu quand même. Et ensuite, dans les obésités, là, écoutez, excusez-moi, mais je renvoie mon roman, parce que cette fois-ci, avant, j'avais fait des essais. Mais là, cette fois-ci, je suis allée vers le grand public pour que ce soit facile à lire, agréable à lire, et très, très sérieux. Tout ce qu'il y a derrière, c'est très sérieux, il y a tout le message. Et lorsqu'il y a des personnes en excès de poids, grave ou pas grave, il faut s'interroger pourquoi on n'est pas rationnel avec la nourriture. Puisque par ailleurs, les gens disent en souffrir. Donc vraiment, ça pose question. Et tout ce qui est derrière le miroir, tout ce qui est derrière l'origine, c'est ça qui compte. Donc quand vous voyez quelqu'un en obésité, il faut surtout pas lui dire « Oh là là, tu bouges trop ». Ce qui compte, c'est de dire « Bon, bah, que, avec ce comportement, est-ce que ça te va ?» Si tu me réponds « Oui, ça te va, bon, très bien ». Si ça ne te va pas, bon, bah là, il faut creuser, mais pas forcément avec moi. Il y a des gens avec lesquels tu l'as creusé sans être jugé. Et c'est pas vraiment par le côté alimentation qu'il faut commencer. Parce que on arrivera à l'assiette, au comportement alimentaire, une fois que le rapport à soi et à son corps sera un petit peu déblayé. Et il y a, j'ai peut-être pas le temps, des tas d'exemples pour lesquels l'approche psychologique, mais de fond, hein, psychanalytique plutôt, permet de lever le voile. Et après, je travaille toujours avec des collègues diète, parce que après, c'est pas du tout de mon ressort. Hein. Toujours, oui. toujours.
Merci à toutes d'être intervenues. Donc, je rappelle, Sandra Desmartin, nutritionniste diététicienne, Marie Sandoz, chargée de mission jeunesse à l'Union régionale pour l'habitat des jeunes Auvergne-Rhône-Alpes, et par téléphone, Catherine Grangeard, psychanalyste et co-auteur du roman La femme qui voit de l'autre côté du miroir aux éditions Erol, à sortir en juin. Merci à toutes d'être venues.
Merci.
Et puis, peut-être à bientôt.
Jeune à tout prix. Morgane Berguin.